bit of the bubbly.
That's undisputed.
I'm better than you, and you know it.
And we are NXT.
War Games.
Salut les smarts, salut les marks, vous écoutez Catch Up, le podcast qui transpire le catch et qui pour vous chaque semaine regarde, résume, analyse tous les shows de la WWE, mais pas qu'un, puisqu'aujourd'hui c'est All Elite Wrestling Double or Nothing, le premier pay-per-view de la All Elite dans l'ère pandémie Coronamania. Donc voilà, c'était très attendu ce show. Pour en parler, une triple frite de choc, l'Amiral Armbar aux commandes, avec eh bien, mon tag team habituel de la baston du mercredi, le Luchasaurus des podcasts, Tonton Chris.
Et salut oui. L'Amiral, salut peuple de catch-up.
Ce qui est bien avec Chris, c'est qu'on entend de suite qu'il est en forme et ça fait plaisir. Et on a aussi mon tag team plutôt côté New Japan, Ringside, Genki Deska.
De Deskaden ?
L'ignoble Ringside, il maîtrise trop bien le japonais.
Ah, quatrième langue natale.
Oh purée là-bas.
Ouais, multiculturel, hein, Ringside, ça qui est bon. C'est ça qui est bon.
Merci, bravo. Bonjour, je suis très content d'être là. J'avais un peu déserté les terrains de jeu de bagarre de la baston du mercredi, mais je suis de retour pour le Double or Nothing de la All Elite Wrestling, un des plus gros pay-per-view de l'année pour la fédération du Fiscan.
L'anniversaire, puisque l'année dernière, rappelez-vous, le premier Double or Nothing l'année dernière, c'était le premier événement qui était estampillé All Elite Wrestling, hein, puisqu'il y avait eu bien sûr All In qui avait été fait avant, mais qui n'était pas encore sous l'égide de la fédération de Tony Khan, et donc ça avait été annoncé Double Nothing en même temps que la All Elite Wrestling, donc c'est un peu un jalon anniversaire, dans un contexte forcément bizarre et particulier, même si, comme d'habitude, on le voit depuis quelques semaines du côté de Dynamite, il y a un petit peu de public, un petit peu de catcheurs autour du ring pour faire un peu illusion et pour pousser des cris holy shit et this is awesome. Voilà, donc un show, le show le plus avec le plus de public qu'on ait vu depuis au moins 2 mois et demi, hein, clairement.
Oh oui, oh oui.
Ah oui, ça fait du bien d'entendre du bruit.
Ah, c'est clair, ça fait du bien d'entendre.
Même si c'était des cris qui étaient continus, qui n'avaient pas vraiment de cohérence dans leur façon de réagir, c'était quand même beaucoup plus sympa que d'avoir le silence qu'on se coltine à la WWE depuis 2-3 bons mois maintenant.
Les criquets, comme dit Shawn Michaels.
Je suis d'accord.
Les mouches voler.
Ça fait du bien d'entendre des mecs gueuler.
Parce que c'est ça qu'on aime, ouais.
Voilà.
Bon bah très bien, on va attaquer une carte bien dense et bien chargée avec le petit buy-in qui est le pré-show. Il y avait quelques interviews principalement de Jack the Snake Roberts et de Arn Anderson pour build-up encore s'il le fallait le match entre Cody et Lance Archer pour le TNT Championship. Mais il y avait un match dans le buy-in pour les first contenders au Tag Team Champions. Donc c'était les Best Friends, Chuckie T et Trent contre Private Party qu'on n'avait pas revu depuis un petit moment dans le ring. Donc un petit match, hein, tag team assez fun et dynamique de 15 minutes qui voit au finish et bien couronner ceux qui ont tenu la division tag team, on peut le dire, à Dynamite ce dernier mois, à savoir du coup les Best Friends, hein, qui avec leur strong zero, leur finisher, donc font le tomber sur Mark Quinn.
Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, ils ont eu 15 minutes. Et techniquement, c'était assez bon. Mais après, les private parties, je sais pas, je suis pas super affolé par eux, quoi. Alors que j'aime bien les Best Friends.
Ouais, je t'avoue que j'ai pas regardé ce buy-in.
Ah, t'as pas regardé le buy-in, quoi. Mais toi, t'es un spécialiste de pas regarder les pré-shows, de toute façon, quoi. Donc, c'est une des grandes.
Non, une fois j'en ai regardé un, c'était pas mal.
En 1987
C'est ça.
Voilà, d'accord.
Les choses sérieuses, la main card, on va de suite rentrer dans le lourd avec bien ce match, ce mix entre un Royal Rumble et un ladder match Money in the Bank, puisque donc, c'est le casino ladder match où deux adversaires commencent au milieu du ring et toutes les deux minutes, il y a un autre adversaire qui arrive et le but, c'est de décrocher non pas une mallette, mais un gros jeton de poker, de casino, hein, puisque Double or Nothing, c'est dans le délire, effectivement, casino Las Vegas. Et celui qui aura le bonheur de décrocher gagne un title shot pour le AEW World Champion. Ce match aura lieu à Fyter Fest, de ce qu'on nous a dit. Et donc voilà, on a une petite vidéo qui présente un peu tous les compétiteurs de ce match. Donc on a Darby Allin, Colt Cabana, Orange Cassidy qui d'ailleurs dans sa vidéo essaie de comprendre les règles du match en se faisant briefer par les best friends. Ouais, des segments assez drôles.
Il n'a pas l'air très motivé pour monter l'échelle.
Hein, non.
Il a attrapé le truc, mais sans s'emmerder à monter l'échelle. Quoi.
C'est ça. Il comprend pas très bien comment ça marche. Hein. Dans le dernier Dynamite, ils ont essayé de l'expliquer. Et quand ils ont dit qu'il y aurait 9 autres mecs, il était là. Attendez, je dois me battre contre tout ce monde-là. Mais je vais pas y arriver. Hein, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, il n'est pas très motivé à son habitude, Cassidy. On a aussi le bad boy Joey Janela qui remplace au pied levé à la cheville cassée presque de Ray Phoenix, hein, qui dans le dernier Dynamite a fait un bump, un mauvais bump sur sa cheville. Donc pas de grosse blessure pour Ray Phoenix, mais il ne peut pas participer à ce match. Donc Joey Janela le remplace. Du côté de SCU, c'est Scorpio Sky et Frankie Kazarian qui sont aussi dans le mix. On a aussi Kip Sabian et Luchasaurus, plus une personne qu'on ignore, hein. il y a un joker dans ce match. Toujours est-il, et bien qu'on commence au milieu du ring, on a Kazarian et Sky, donc les deux DCU qui sont là, donc forcément une petite hésitation de qu'est-ce qu'on fait. Les deux vont à l'extérieur rapidement pour choper une échelle, se rendant compte qu'ils avaient la même stratégie, ils virent les échelles finalement en se disant bon ok, on va un peu se bastonner parce qu'on est amis, ça doit être ça la logique, hein, j'imagine. Donc on a un peu d'échange entre les deux qui hésitent, est-ce qu'ils y vont à fond les ballons ou pas, jusqu'à ce que bien un bon heel arrive, Kip Sabian, qui bien sûr est flanqué de son meilleur ami Jimmy Havoc, hein, qui avait un costard blanc taché de sang, du plus bel effet. Donc forcément Jimmy Havoc intervient, même si c'est pas dans le match puisqu'il n'y a pas de disqualification évidemment. Ensuite ce sera au tour de Darby Allin qui d'ailleurs fera un spot juste n'importe quoi, hein, comme ringside où tonton Chris le déteste faire, puisqu'il voilà. Montera en haut d'une échelle avec son skateboard. Il y aura je sais plus qui était sur une table, je crois que c'est Kazarian, et donc Darby Allin saute avec ses pieds joints sur le skateboard pour atterrir sur le buffet de Kazarian, tout skateboard en avant, sauf que Kazarian aura vu la mort arriver d'en haut et aura roulé à l'extérieur, et Darby Allin passe à travers une table sur son skateboard et se vrille le genou qui le mettra à l'extérieur pendant très longtemps dans le match. Et donc voilà, encore un spot. Ouais.
On ne sait même pas comment il est apparu le skate. Il apparaît dans ses mains à un moment donné.
C'est son pouvoir. Comme le Undertaker, il fait apparaître des éclairs, et bien Darby Allin, qui est un peu dark, fait apparaître des skateboards. Hein. Voilà, c'est le côté un peu plus néo-métal, je ne sais pas. Donc ouais, ce spot-là, vous avez trouvé ça n'importe quoi, j'imagine.
Complètement. Ah bah ouais, comme d'habitude, hein, en route vers la mort.
le mec est totalement suicidaire, quoi. Enfin, et en plus dangereux pour ses partenaires de match, quoi. Donc, écoute, je continue à maintenir mon avis sur Darby Allin. Ce jeune homme est dangereux.
Ah, tu penses qu'il est dangereux pour les autres aussi?
Avant même qu'il soit dangereux pour lui, oui, je pense qu'il est dangereux pour les autres. Mais après, ce n'est un langage que moi. Hein. Mais moi, perso, je serais catcheur, je n'aimerais pas du tout être partagé le ring avec ce Darby Allin, quoi.
Ok, parce que pour l'instant, à l'Elite, il n'y a pas eu de blessure, d'accident particulier qui a blessé un adversaire de Darby Allin. Donc, est-ce qu'il n'est pas moins dangereux même que d'autres qui n'ont pas ce même état de service? Un peu cette Rollins, il y avait pas mal de gens qui, à un moment donné, puisqu'il avait eu 2-3 adversaires qui avaient été blessés suite à des matchs contre lui, des gens demandaient si c'était dangereux ou pas. Bon, bah, Darby Allin, pour l'instant, il est clean de ce côté-là, quoi.
Ouais, on va dire qu'il s'en sort bien, quoi, voilà, quoi, mais enfin bon, comme dirait l'autre, hein, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, quoi, donc voilà, Darby Allin, écoute, c'est à peu près comme ça que je le résume, ce garçon, quoi, moi je suis vraiment pas fan de lui, quoi, donc c'est pas moi qui vais donner, malheureusement, des choses positives sur ce Darby Allin, quoi.
Ah, je m'inquiète plus pour lui que pour les autres, mais c'est sûr que sauter sur un gars avec son skate, si tu veux blesser quelqu'un, tu fais ça, quoi. Mais bon, pour l'instant, on touche du bois, il n'y a pas eu de blessé. Bon,
donc, c'est quoi la prochaine étape ? C'est, il va sauter avec un sabre, avec une tronçonneuse c'est quoi,
avec son skate et des lames, et enfin. ça restait un joli spot spectaculaire quand même.
Ah, c'était spectaculaire. Je ne nie pas le fait qu'il
ce
a.
Ce qui est intéressant quand même sur ce coup-là, c'est qu'il a vraiment bien vendu la cheville et
le genou.
Le genou, la cheville.
Toute la jambe.
Le coude de la jambe, le genou.
Il a continué à agir tout en boitant pendant le reste du match sur un pied. Mmh. Ça, je trouvais
complètement
que c'était plutôt bien fait au point que j'ai douté de savoir si c'était vraiment blessé ou pas.
C'est ça, on ne sait jamais vraiment.
Voilà, mais bon, apparemment, il n'y a pas de nouvelles comme quoi il est blessé.
Non.
Mais au moins, derrière, de vendre le spot comme quelque chose de dangereux qui lui a fait mal, ça, par contre, je trouve ça plus intelligent quand même. Donc...
Ah bah, tant qu'à faire, hein, quitte à prendre des mesures inconsidérées comme celle-ci, faire n'importe quoi, autant le vendre, sinon ça serait un peu dommage. Un qui ne fera jamais truc comme Darby Allin... Rendant le match, c'est Orange Cassidy, donc comme le disait Ringside, qui a du mal à comprendre comment on monte à l'échelle. Donc il met l'échelle par terre au centre, il essaie de monter, de grimper, il n'y arrive pas forcément. Les autres adversaires essaient de s'en prendre à lui, un peu comme à chaque fois quand dans un genre de match, un Royal Rumble, le nouveau venu arrive, et bien il a un peu de momentum, hein. Il y a toujours une phase d'une minute où il domine tout le monde. Sauf que là, Orange Cassidy, il domine juste en esquivant les autres qui se jettent tout seuls à l'extérieur. Donc sans grand effort, il arrive à rester seul un bon moment dans le ring. Jusqu'arrive Colt Cabana qui voit que ce pauvre Orange Cassidy n'y connaît rien en échelle et essaie de conseiller avant bien sûr de lui mettre un petit coup en traître, petit cabotin de Colt Cabana. Arrive Joey Janela toujours dans son cosplay de Joe Exotic, hein, de Tiger King, c'est bel effet. Donc voilà un vrai Joe Janela qui fera des spots un peu à l'extérieur, un peu foufou. Arrive le gros costaud du match, le Chazorus.
Ah
voilà, hein, qui va faire des shock slams sur les échelles, notamment à ce pauvre Frankie Kazarian. Et puis, il est le moment venu d'arriver, de voir arriver le fameux Joker. Est-ce que vous aviez anticipé qui ça serait ou pas ? Est-ce que vous l'aviez senti ? Est-ce que vous l'avez...
Ah, du tout.
Absolutely not.
Dans le brouillard complet.
Eh ben, pareil, hein. Non, et c'est...
Ouais. Je pensais peut-être à... comment s'appelle-t-il ?
Gulak ?
Non, le Samoan là, qui était à la Lucha Underground, le monstre Matanza, je sais plus son nom.
Jeff Cobb.
Jeff Cobb, voilà.
J'ai pas comme toi Ringside. Moi aussi, j'avais mis plutôt une pièce sur Jeff Cobb en fait à la base.
Voilà.
Ouais. Jeff Cobb, on avait déjà vu, hein, le Elite qui avait été engagé par le Inner Circle pour aller tuer John Moxley. Sans succès. Et non, c'est quand même un gros costaud qui débarque, c'est Brian Cage, anciennement de la TNA, hein, principalement, qui a été champion TNA pendant un petit moment. Ouais. Il était le Underground aussi, Brian Cage.
Également, ouais, un gros
costaud.
Exactement.
Donc un gros costaud, hein, avec tous les ceux qui ont comme critique pour la Elite Wrestling que généralement le gabarit est assez finaud. Ben maintenant avec les Brian Cage, Brody Lee, Lance Archer, Jack Hager, Wardlow,
ouais.
Ça y est, les gros costauds ont un nouvel arrivant de choc et de poids, Brian Cage, donc qui débarque forcément, qui domine très rapidement. Un peu tout le monde se ligue contre lui pour l'enterrer sous une pile de chaises et en mettant un gros jeton de poker en bois, en ciment, on ne sait pas trop. Donc il restera out un petit moment jusqu'à ce qu'il envoie valdaguer tout ça, un peu comme une seconde renaissance. Et à la fin, ça sera Darby Allin et Brian Cage qui s'affronteront pour grimper, bien sûr, le plus grand, le plus fort l'emportera. Et pour son arrivée, Brian Cage, hein, qui aura été accompagné de Taz, un peu comme si Taz était son manager. Brian Cage décroche le chip, le casino chip, et donc gagne ce premier match de l'échelle, le Casino Royal Battle Mix 27-47, et gagne donc un futur title shot pour le championnat ultime. Une demi-heure de gros match. Mon cher Inside, est-ce que c'était à ton goût ?
Ah ouais, carrément. J'ai vraiment beaucoup aimé ce match. C'était bien rythmé. Ça n'a pas été trop vite. Ils n'en ont pas trop fait comme ils ont souvent l'habitude d'en faire. Chacun avait ses spots bien réglés. J'ai beaucoup aimé le passage avec Orange Cassidy qui essaie de qui est pas motivé pour monter son échelle. Ouais. Il essaye un peu toutes les combinaisons possibles pour réussir à atteindre le jeton, mais sans déplier l'échelle. Ça, c'était marrant. L'arrivée de Cage était vraiment surprenante pour le coup. Effectivement, c'est le genre de gabarit dont ils ont besoin à la All Elite Wrestling. C'est un catcheur qui est quand même spectaculaire. Brian Cage, hein, il a une physique incroyable. Il bouge comme un cruiserweight. Alors, c'est un mec qui a tendance à se blesser aussi. Donc, c'est pas un mec super fiable pour une fédé comme la All Elite Wrestling. Mais bon, ça, c'est du chipotage. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas comment ils vont le gérer. En faire le gagnant, j'ai trouvé ça très intelligent. J'ai eu peur qu'à un moment, ils viennent juste pour apparaître et puis rester coincés sous les piles de décor après avoir dégommé un petit peu tout le monde. Mais on voit clairement qu'ils le vendent comme un mec qui surclasse la concurrence, parce qu'il y en avait quand même là qui était là pour la blague, hein, dans ce match-là. Hein, Joey Janela ou
Darby Allin.
Darby Allin ou Orange Cassidy. C'était clairement pas des mecs qui étaient sur la liste des gagnants potentiels. Même, je veux dire, aucun n'aurait eu intérêt à gagner ce truc-là, puisqu'ils vont se faire plier face aux champions. Il n'y aurait aucun doute là-dessus. Là, avec Brian Cage, on a un peu plus de doutes. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent en faire. C'est un mec qui a quand même un gros potentiel. Et c'est, comme on le disait, c'est le genre de gabarit dont ils ont vraiment besoin. Et puis tout ça était vraiment bien goupillé. Les spots étaient impressionnants. Le spot final, alors tout aussi crétin que celui du skate avec Darby Allin qui est allongé sur l'échelle et Cage qui balance l'échelle avec Darby Allin dessus à l'extérieur du ring. Là, il a quasiment failli se tuer encore une fois.
Quand t'as tatoué sans peur et sans repos sur ton corps, ouais, faut assumer après d'ailleurs, forcément. Hein.
C'est ça.
Lignes, voilà.
C'est ça. Bref, il y avait des beaux spots, il y avait des beaux enchaînements. Ça n'a pas été trop vite. Ils sont pas tombés dans les petits problèmes du catching qu'on a d'habitude avec les spot fest. Sans raison. Joey Janela a été bien utilisé. Il a fait deux spots qui était assez impressionnant. Voilà, moi j'ai rien à redire sur ce match, c'était vraiment, vraiment très bon, très bon opener, spectaculaire, voilà, on avait envie de voir ça, je suis content.
Très bien, et toi Tonton, en tant que gros fan de la lucha underground, est-ce que t'es content de voir Cage the Wolverine débarquer du côté de la lucha?
Ah bah ouais, surtout que, bon, je vais faire mon crâneur quoi, mais moi d'ailleurs c'était à cause de ça d'ailleurs que j'étais déçu de pas avoir percuté que c'était Brian Cage qui arrivait, parce que moi je le connais personnellement, messieurs, Brian Cage, voyez-vous? Ah ouais. Je l'ai rencontré l'année dernière, en septembre 2019 exactement, et j'ai eu l'occasion de longuement échanger avec lui, quoi. Et puisqu'il a participé à un show dans mon département, et comme je suis plutôt bien introduit dans le milieu, j'ai eu l'occasion de non seulement de taper la discute avec lui, mais carrément de boire un coup, et avec lui et Matt Cross en l'occurrence. Et j'ai eu tout le loisir de taper la discute avec lui, de lui dire tout ce que j'avais aimé de lui quand il était à la Lucha Underground, et en particulier un match qu'il avait eu avec le Mac. Et voilà, donc le voir apparaître dans ce match, c'était excellent. Et puis voilà, le voir prendre le ticket pour un title shot, je rejoins totalement ce qu'a dit notre ami Ringside, et c'est parfait d'avoir ce mec-là en contender. Il a été champion au TNA, il a été champion de Lucha Underground, c'est une vraie menace, c'est un vrai physique. Alors effectivement, il est un peu fragile, malgré justement ce mec énorme, quoi. Mais il est peut-être justement un peu trop énorme. Moi, je lui avais conseillé en septembre, en tant que vieux, de perdre 4-5 kilos. Mais il ne m'a visiblement pas écouté, puisque je l'ai trouvé encore plus balèze. donc voilà. Mais sinon, comme tout pareil que Ringside, j'ai beaucoup aimé cet opener. C'était un match de feu, de l'intensité, des moments délire. Bon, à part le truc complètement débile de Allin, j'ai trouvé que l'ensemble tenait la route. Voilà, j'aurais aimé voir le Luchasaurus, peut-être plus haut que ça encore dans l'affaire, mais bon, ça sera pour une prochaine fois, je m'inquiète pas, et je suis totalement satisfait du vainqueur du match.
Très bien. Sachant que j'ai lu une petite interview de Tony Khan post pay-per-view qui parlait au sujet de Brian Cage, en fait, qu'ils ont signé son contrat en janvier dernier, à l'époque où Brian Cage était libre de contrat, mais blessé. Il était en convalescence, et donc il a signé en janvier en attendant le moment où il serait guéri. Donc, du coup, là, il était déjà employé à Elite Wrestling depuis plusieurs mois. En train de récupérer tout ça pour le préparer. Donc, effectivement, ils ont l'air d'avoir de gros projets pour lui, hein, du côté de Dynamite, hein, et de la fédération.
Ils signent des mecs qui sont blessés.
Ouais, et effectivement, Tony Khan disait, ouais, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais faut pas faire ça, etc. Tu vas le payer alors que qu'il est blessé. Puis Tony Khan s'en est défendu en disant, ouais, mais moi je le voulais dans ma fédération. Et puis voilà quoi, c'est je trouvais ça pas cool pour de commencer la relation en disant, bah on va attendre plus ou moins que tu guérisses, tu auras zéro thune, tu as touché zéro thune. Et puis j'attends que tu sois frais comme un gardon pour commencer à t'embaucher. Non, non, si tu m'intéresses, on signe un contrat dès maintenant. Tu peux pas catcher pendant 2-3 mois, c'est pas grave.
Ça me paraît logique. Le mec est un agent libre. Finalement, c'est un petit peu faire un parallèle avec Kevin Durant, quoi. Hein. Les New Jersey Nets, ils ont fait signer Kevin Durant, sachant qu'il était out, et ça les a pas empêchés de le prendre. Et puis donc moi, je trouve que c'est pas un mauvais calcul d'avoir fait ça. Hein. Ils l'ont préparé comme il fallait. Il semblait en super forme. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, les amis. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir ne serait-ce que la moitié de ses pecs. Et je trouve que c'est plutôt finement joué.
Ouais, puis en plus ça colle un petit peu avec l'idée à l'Olid qui veulent changer un peu le milieu du catch, un peu se rapprocher d'une union, d'un syndicat avec un peu plus de droits, et notamment le côté les blessures qu'on va laisser sans se payer, enfin augmenter un peu le climat social et les aides pour les catcheurs. Donc ça colle avec aussi cette concept-là qu'ils essaient de mettre en avant, donc ça me paraît là aussi cohérent.
Ouais, belle prise de risque, chapeau.
Ouais. Et c'est comme ça, il faut en prendre des risques. On avance sur la carte, un autre match, mais là en simple, c'est MJF contre Jungle Boy, hein, donc juste un match pour la bagarre, comme on dit, avec aucun enjeu, si ce n'est Jungle Boy qui essaie de venger son pote Marco Stunt, qui s'est fait encore trucider la semaine dernière par MJF et Wardlow. Jungle Boy qui aura sur ses épaules la lourde tâche d'essayer de fermer et claquer une bonne fois pour toutes de MJF. Un match de 17 minutes, pas mal disputé, où vraiment, personnellement, je trouvais qu'il y avait... J'étais assez surpris par les deux, puisque dans le ring, ils ont donné des trucs assez cool. J'ai trouvé vraiment des séquences de catch qui étaient rien de mind-blowing, mais plus que ce que je m'attendais pour ce match. Il y a un truc, par contre, j'ai trouvé dommage, c'est que j'ai regardé, je ne sais pas si c'est votre cas, j'ai regardé sur la chaîne YouTube de Elite Wrestling une vidéo d'un quart d'heure, The Road to Double or Nothing, qui était un truc d'un quart d'heure avec des petites vidéos pour hyper le pay-per-view. Et il y avait notamment une promo face caméra en un seul plan d'MJF qui dure bien 5-6 minutes, donc en une seule prise, qui était géniale. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, ceux qui amis de catch-up, poteau de catch-up, allez regarder, ça vous intéresse, donc, sur la chaîne YouTube de Holy Twisting, Road to Double or Nothing, la dernière vidéo, la promo d'MJF, elle est phénoménale, vraiment. Et je trouvais dommage qu'ils n'utilisent pas, que ce soit dans le pay-per-view ou dans Dynamite, des éléments vidéo qui tournent uniquement pour YouTube, parce qu'il y en a vraiment qui sont de super qualité. Et là, j'aurais trouvé ça cool qu'ils mettent cette interview d'MJF qui était vraiment, encore une fois, mais royal dans sa promo. Ça expliquait bien son positionnement dans le match et celui de Jungle Boy. C'était vraiment bien foutu et surtout très bien exécuté. Donc là, voilà, ça manquait un petit peu d'enrobage, j'ai envie de dire, mais un match plutôt sympa. Et au final, bien entendu, même si Jungle Boy a essayé de se battre comme un beau diable, eh bien, c'est bien sûr l'immonde MJF qui gagnera avec un tombé, avec une sorte de clutch européenne modifiée. Donc voilà, victoire du vilain, MJF. Toi, tonton Chris, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que tu as trouvé ça cool aussi, ou plutôt quelconque?
Ouais, non, je trouve ça plutôt sympa. Ils ont eu du temps. Moi j'aime toujours. Tu sais, Amiral, que moi, j'aime bien quand la mid-card, elle a un peu de temps. Mmh. Et pour l'instant, MJF, malgré toutes ses annonces, il est quand même encore placé dans la mid-card. Et c'était le cas dans ce pay-per-view. Et Jungle Boy, il a pas à rougir de sa performance. Je trouve qu'il a fait un bon match. Il nous a mis plusieurs jolis moves, quoi. Et du coup, on a même eu droit à un Frankensteiner à l'extérieur du ring. Et ça, c'est quand même, quand on connaît la violence de ce mouvement, franchement. Donc, moi, franchement, c'est passé crème, ce combat, quoi. Et victoire attendue du vilain, hein, comme tu dis. De toute façon, je m'attendais pas à autre chose qu'une victoire de MJF. Mais malgré justement ce peu de suspense sur celui qui allait gagner, j'ai trouvé qu'ils avaient donné tout ce qu'ils avaient, les deux gars, les deux jeunes, là. Et voilà, ça m'a fait plaisir de voir deux jeunes de mid-card comme ça nous sortir un bon petit match avec du temps. Voilà, mais parce que moi, c'est tellement ce qui me manque à la WWE ces derniers mois, des matchs avec du temps. Et là, ils en ont eu et c'était très bien.
Bah, nickel. Hein. Ton côté ringside,
moi, j'ai trouvé...
en jouer
Non, moi j'ai.
Non, ouais. Ah, je savais. Je le sentais.
j'ai trouvé ça trop long, moi. 17 minutes, c'est plus long que le championnat mondial. Que ce soit féminin ou masculin, pour un match qui est sans enjeu. Alors ouais, Jungle Boy, il s'en sort bien, mais c'était pas le propos du match. Fallait simplement mettre over MJF, ça suffisait. Il gagne en surclassant Jungle Boy niveau catch, alors qu'on s'attend plutôt à le voir tricher pour montrer que c'est un bon salaud. Là, je trouve pas que ça ait fait avancer le Schmilblick d'un côté comme de l'autre, à part de dire que Jungle Boy, il est un petit peu costaud, mais il se fait quand même botter le cul pendant quasiment tout le match. Je pense que ça loupe son effet, que c'est trop long. Ça m'a sorti un petit peu du pay-per-view. Après, c'est pas mauvais ce qu'ils ont fait dans le ring. Hein. Les deux mecs catchent bien, etc., etc. Mais c'est vraiment la construction, moi, que je trouve pas adaptée pour l'histoire qui doit être racontée. Et puis le placement dans la carte. Il faut qu'il fasse attention, justement. Enfin, à mes yeux, hein, par rapport à ce genre de match où il laisse trop de temps, les mecs déroulent trop. On aurait eu un début avec un Jungle Boy qui attaque en vitesse, qui déroule. Après, MJF qui triche. Il le malmène un petit peu, premier tombé, un retour de Jungle Boy, puis finalement la victoire de MJF sur une nouvelle tricherie. Ça aurait été plus efficace que ce qui ressemble à un match de Weekly, un event de Weekly ou quelque chose comme ça, un petit peu gonflé, voilà.
Moi j'aime bien le fait que MJF justement gagne sans tricher, parce qu'à un moment donné aussi, l'utilité de ce match, c'est de continuer à monter MJF dans la carte, hein, dans la division single. Clairement, il va aller tâter le titre à un moment donné ou un autre, donc il faut bien lui faire engranger des victoires sans forcément qu'il ait recours à la tricherie. Donc moi, ça m'a pas dérangé, au contraire. Après, ouais, peut-être qu'au niveau du rythme du match, il aurait dû faire un peu plus de phases différentes. Mais pareil, moi, un peu comme Chris, j'aime bien que la mid-card montre qu'elle soit disputée et que des gens comme Jungle Boy, que tu sais, que tu penses qu'il va perdre, eh bien, il ne perd pas en 5 minutes, mais qui aussi ait un peu l'opportunité de montrer ce qu'il sait faire. Donc, mais je comprends ton point de vue. On va voir si le prochain match divise ou réunit, puisque c'est un match qui était assez attendu, hein, la finale du TNT Championship Tournament. Donc, déjà, premier point, eh bien, c'est Mac Tyson, comme il l'avait annoncé, qui vient présenter la nouvelle ceinture. Donc, Mac Tyson qui débarque et qui la révèle, une ceinture, un design très différent, hein, des autres ceintures de la fédération pour l'instant, puisqu'on a une ceinture en cuir rouge avec des plaques toutes argentées, avec TNT écrit en noir. Déjà, sur la ceinture, pour ou contre, est-ce qu'on aime ou pas Ringside? Qu'est-ce que tu penses de cette ceinture TNT?
C'est pas la plus belle ceinture que j'ai vue. Maintenant, elle a le mérite d'être originale.
Ok.
Ressort un peu du lot.
D'accord.
Elle n'est pas extrêmement dégueulasse.
Ouais, elle est un peu cheap, quoi. Par rapport vraiment à la ceinture du titre mondial, que je trouve vraiment magnifique, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas fait un effort phénoménal sur cette ceinture. Mais bon, ça va, ça passe, quoi. C'est le titre intermédiaire, donc ça passe, quoi. Puis, de toute façon, jamais rien n'égalera la beauté du titre intercontinental, donc de toute façon...
Ouais, moi j'avais envie de l'appeler le titre Bioman, celle-ci, parce que vraiment, il y a ce côté rouge et argent. J'ai pensé à Bioman, et le deuxième truc que je me suis dit, cette ceinture, elle a été créée pour être autour de la hanche de Lance Archer, parce que quand Lance Archer débarque juste après, donc vêtu comme dans son habitude de rouge et de noir, avec aussi pas mal de pièces en métal argenté, je me suis dit qu'elle lui irait parfaitement. En termes de couleur, en fait.
J'ai eu un peu la même sensation.
Ah, ok, il n'y a pas que moi, donc. Okay. Parce que je me suis dit, tiens, est-ce que ce n'est pas un signe que c'est fait pour... Parce qu'en fait, je me suis dit, pareil, là, tu parlais de la ceinture intercontinentale. En plus, on sait l'amour qu'a Cody pour cette ceinture. C'est lui, il y a du côté de la WWE à l'ère moderne, qui avait fait revenir l'ancien design avec la strap en cuir blanche. Et je m'attendais peut-être à voir une ceinture TNT avec ce strap en cuir blanc, en mémoire aussi, en hommage à cette ceinture traditionnelle. Puis, je me suis dit, ouais, non, parce que si elle est blanche, c'est forcément trop pour Cody. Et en voyant rouge, je me suis dit, ah, bah, c'est forcément trop pour Lance Archer. Donc, Lance Archer qui débarque avec, dans sa main, déjà un mec. Il dépasse Mac Tyson, puis il fait un choc slam du gars juste devant Mac Tyson, qui est un peu impressionné de voir ça, parce que hein, c'est pas tous les jours que Mac Tyson voit des démonstrations de violence devant lui de nos jours en tout cas. Puis bien sûr arrive Cody, hein, donc sobrement les deux accompagnés uniquement de Jake et de Arn. Et donc là, un match forcément avec beaucoup d'enjeux qui est devenu personnel, une histoire qui nous est racontée depuis des mois, depuis avant le confinement, depuis l'arrivée hein, de Jake et sa promo dans le ring, on se souvient, contre Cody Rhodes. Un championnat plus tard, un meurtre de frère hein, presque plus tard, on arrive enfin à ce blow-off, le pinacle de cette rivalité, avec un match donc de 21 minutes entre les deux. Donc bien sûr, il se passe plein de choses. Je vais plutôt vous laisser revenir sur les éléments qui vous ont marqué, plutôt que tout raconter. Bien sûr, il y a des interventions. On s'imagine que c'est Jack qui va tricher, mais en fait non, c'est Arn Anderson qui est le premier va toucher Lance Archer hein, donc en trichant. Donc l'arbitre ne voit pas parce qu'il est discret à ce moment-là, mais un second arbitre fera éruption pour dire au premier arbitre « Et attention, il y a Arn Anderson qui intervient dans le match. » L'arbitre demande confirmation à Mike Tyson. Mike Tyson, il fait « Ouais, il a intervenu, faut le virer. » Très bien, d'une ni deux, Arn Anderson se fait virer des abords du ring. Pareil pour Jack, hein, puisqu'on se dit « Bon, ok, on va pas laisser l'autre dans le coin. » Donc les deux mentors se font virer. Jack essaiera de revenir quand même plus tard avec un sac en jute, avec bien sûr à l'intérieur, on imagine, son cobra. Mais Mike Tyson, ne goûtant pas ses techniques, se mettra en barrage, enlèvera son t-shirt, fera les gros bras et menacera Jack de lui mettre une droite. Jack, malgré ce qu'il avait dit la semaine dernière au micro quand il parlait avec Anderson dans le ring, eh bien, il fera demi-tour Fissa. Tout ceci fait une grosse distraction qui fait que Lance Archer ne regarde plus activement le match et ni son adversaire, ce qui permettra à Cody de passer deux crossroads pour la victoire. Premier champion TNT, Cody Rhodes. Mon cher Ringside, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu penses que Cody est le bon premier champion TNT? Est-ce que ce match valait le coup, oui ou non?
C'était un bon match. Hein. On ne peut pas dire que c'était un mauvais match. C'était peut-être encore une fois un petit peu long, mais ils se sont donnés tous les deux. Lance Archer, il a bien déroulé. C'est un costaud. Il y a eu quand même des gros spots bien violents à l'extérieur du ring, là, sur les poteaux. Il y a eu... Je crois qu'ils sont explosés sur des tables et des chaises dans le décor. Il y a eu les petites interventions de Jack Roberts, de Arn Anderson, avec Cody qui passe un DDT sur Archer, hein, le finish de Jack Roberts, ça met Jack Roberts en rage. Derrière, il y a Lance Archer qui réplique avec un spinebuster juste sous les yeux d'Arn Anderson. Effectivement, le final original avec l'intervention d'Arn Anderson, c'était plutôt sympa, puisque c'est...
J'ai bien aimé après ce passage, comme tu disais, le DDT face à Jake, le Spinebuster face à Arn, après Cody qui déroule le Bionic Elbow de son père, ouais. Le finisher de son frère, et puis après son crossroads, il y avait des jolis hommages de prise à différents personnages dans le catch. J'aime bien ce petit côté culture, en fait.
Ouais, il a fait le Sting... c'est le Sting Splash?
Ouais, Sting Splash aussi, tout à fait.
C'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Il y avait du prestige dans le match. L'intervention des Hall of Famer, on va dire, entre guillemets. Ça a été plutôt bien goupillé. Il y a Mike Tyson aussi qui a joué un peu des muscles. C'est juste un peu dommage qu'à la fin, moi j'ai bloqué sur Mike Tyson qui recherchait son t-shirt là, et en même temps c'est le finish du match, donc du coup le finish tombait un petit peu à plat, mais ça c'est un petit souci de réalisation, ma foi.
Oui, il y avait aussi un plan où Mike Tyson est en train de bailler quand même,
ouais.
Je l'avais remarqué.
Ouais, c'est vrai.
Ça c'est des trucs qu'il faut faire attention, mais c'est normal.
Ah, hein, il est vieux, il était tard, hein, forcément.
C'est ça aussi.
À cette heure-ci, elle n'est pas du catch et il est couché, lui.
Ouais, puis il ne devait pas s'attendre aussi à venir dans un truc sans public. Ça devait lui faire bizarre un petit peu. Maintenant, voilà, victoire normale de Cody. Hein. Il faut qu'il se refasse la fraise un petit peu, ou la cerise plutôt.
Se refaire la fraise, ça n'existe pas. Se refaire la cerise, ok.
Se refaire la fraise. Non, pour le coup, mais c'est se refaire la cerise, oui, exactement.
On est d'accord. Voilà. Ouais, non, c'était un solide match de pay-per-view et une belle nouvelle expression, se refaire la fraise. Bah, allez vous refaire la fraise tous les week-ends.
Eh ben très bien. Et toi, tonton Chris, est-ce que tu es content de voir Cody se refaire la fraise ainsi?
Ah non, mais moi je suis dégoûté, quoi. Oh là là, comment ça m'a fait chier. Oh là 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 là. C'est pas que j'aime pas Cody, hein, mais franchement, moi j'étais à fond derrière Lance Archer, quoi. Vraiment, moi, vraiment, je pensais vraiment qu'il allait gagner, quoi. Vraiment, je pour moi, là, moi c'est. De toute façon, là, tu le sais, Amira, là, on en parle assez à la bataille du mercredi. Voilà, moi, Lance Archer, c'est devenu mon nouveau chouchou à la E-Dub. Et j'adore ce mec, quoi. J'adore comment il est rentré encore, là, en défonçant un mec au passage. Là, voilà, il a chopé un mec dans la gorilla position. Il a dit, tiens, toi, je vais te tabasser avant de commencer. Voilà. Je note au passage aussi Mike Tyson, 53 ans, la forme éblouissante dans laquelle il est, quoi. Il y a des rumeurs qui se disent qu'il remonterait sur le ring pour un match d'exhibition face à Sonny Bill Williams, qui est un double champion du monde de rugby avec les All Blacks. Donc je ne sais pas si ça va se faire ou pas ça, mais en tout cas, ça, je serais assez curieux de voir dans quel état physique est Mike Tyson sur entre les cordes. Ouais.
C'est un match de boxe.
Non mais attention,
de sentir passer.
Ouais. Ah non mais Sonny Bill Williams, il a une vraie carrière dans la boxe, hein. Donc c'est
c'est pas pour le fun.
Non, c'est un vrai boxeur, Sonny Bill Williams, quoi. Mais bon, pour revenir au match, moi j'ai bien aimé le match, à part la fin, quoi. Voilà, la fin, moi j'étais dégoûté. Franchement, moi je m'attendais vraiment à la victoire de Lance Archer. Je trouvais que Cody n'avait pas besoin de cette ceinture. Et je trouvais que justement Lance Archer, c'était bien de le balancer en espèce de monstre avec le titre intermédiaire là pour lancer son arrivée à la E-Dub. Donc moi, ça a été quand même une petite déception, quoi. Le match en lui-même était bon parce que de toute façon les deux sont bons dans le ring et j'ai trouvé le match très bon. Franchement, ça a été un très bon moment du pay-per-view pour moi. Mais voilà, avec les interactions avec Jake the Snake et tout ça, voilà, Anderson qui était là. Enfin voilà, il y avait plein de trucs plein d'éléments pour me plaire en fait dans ce match parce qu'il y avait du old school avec les anciens. Voilà, avec même Jake qui veut essayer de revenir avec son serpent. Donc c'était vraiment vraiment c'était vraiment bien. Sauf voilà, c'est la victoire finale qui m'a chagriné, mais bon bah c'est comme ça, quoi. Voilà, quoi, c'est Cody qui prend le titre. Voilà, premier champion de TNT de l'histoire, respect à lui, et puis voilà, mais ils ont délivré la marchandise pour moi.
Vraiment à chaque fois, ouais, vas-y, ring.
La victoire est entachée, hein, quand même, de Cody, oui. Parce qu'il est entaché. Donc ça laisse Lance Archer quand même assez fort dans l'histoire.
Oui, il a pas perdu.
Intervention de Arn, distraction.
Ouais, je suis d'accord avec Ringside là-dessus, ça ne décrédibilise pas Lance Archer, ça lui fait pas perdre d'aura. Voilà, cette défaite, elle est sans incidence, quoi. Mais c'est dommage.
Incidence quand même, mais voilà, c'est pas clean totalement. Effectivement, ça protège un peu Lance Archer. Je trouve que c'est une petite attention en détail en termes de storytelling que Cody, du moins dans ses matchs, hein, les gros matchs qu'il fait depuis Innovative Wrestling, à chaque fois, c'est vraiment un petit oignon à niveau scénario et histoire qu'on raconte. Et ça, c'est effectivement un truc important que même si Lance perd. Encore désolé, mon cher tonton Chris, que c'est pas ton poulain qui l'a emporté, même s'il a perdu, ben c'est il peut encore se la ramener, il peut encore dire que Arn Anderson a sali de ses sales pattes le match et a appelé un rematch, hein, et en ayant gain de cause. Donc je pense que c'est pas terminé encore entre Cody et Lance Archer. Ça, on verra dans les prochaines semaines du côté de Dynamite. On a un petit point aussi sur une blessure, parce qu'il n'y a pas que Ray Phoenix, hein, qui a été blessé suite à mercredi. On a aussi Britt Baker qui voilà, dans son match la semaine dernière en tag team avec Nyla Rose contre Chris Attender et Hikaru Shida, s'est blessée, donc elle est remplacée au pied levé ce soir. Donc on a docteur qui nous dit que la blessure de Britt, elle est pas simple, elle n'est pas petite, mais il y a pire que sa blessure, et c'est le patient. Britt Baker est vraiment un humain détestable, ce que nous confirme le docteur. Donc c'est un scientifique qui nous dit, c'est une preuve. Il nous annonce que le mercredi prochain, Dynamite, elle fera une déclaration sur sa blessure et sur le temps qui la séparera d'un retour dans le ring. Et suite à ça, on a le match qui était prévu, donc elle est remplacée par Penelope Ford. Donc du coup, un match avec beaucoup moins d'enjeux que celui qui était prévu, un match de 8 minutes qui verra très logiquement la victoire de Chris Attender avec son Big Bang Theory Pile Driver au milieu du ring, malgré une intervention régulière de Kip Sabian, hein, qui sera aux côtés de Penelope Ford avec des bandages très ridiculement posés sur son corps, avec de béquille. Donc voilà, match un peu vidé de sa substance, mais qui sont conservés dans la carte. Tonton Chris, toi qui es grand fan de Penelope Ford, est-ce que tu apprécies l'avoir combattre finalement ce soir en surprise ?
Écoute, c'était un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu à la IDOB, et je sais que je suis critique sur la division féminine à la All Elite Wrestling. Mais pour le coup, écoute, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Moi, je préfère largement Penelope Ford à Britt Baker dans le ring, parce que moi, je suis pas du tout un fan de Britt Baker dans mm-hmm. Je la trouve très, très efficace en promo, mais vraiment, entre les cordes, moi, je la trouve très, très médiocre. Et pour le coup, et on a eu droit à un suicide dive de Scott Langler, là, quoi. Incroyable, quoi, sur Sabian et Penelope Ford, là, mais vraiment, mais alors là, un spot totalement incroyable. J'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment stiff, quoi. Vraiment,
ouais, moi j'ai eu peur, hein, j'ai remarqué. Je l'ai rematé deux, trois fois parce que j'ai l'impression que Penelope Ford, en tombant en arrière, elle s'était cognée l'arrière de la tête contre la rambarde de sécurité. A priori, ça avait l'air d'aller, mais vraiment, j'ai eu peur pour la contusion, là.
Ouais, c'était vraiment un spot hyper dangereux et, et vraiment, bon, ça, c'était plutôt pas mal. Donc, c'était un match relativement court, mais j'ai trouvé que les deux filles se sont bien données. Et victoire assez logique de Statlander, qui me paraît quand même une des filles les plus en vue depuis le début, depuis la création de la IDUB. Et donc, du coup, ça passait bien parce que c'était assez court. Voilà, ça n'empiétait pas spécialement sur le reste du pay-per-view. Et ça replaçait un peu les filles sur la carte et j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne chose.
Ok. Mon cher Ringside, toi qui adores la division féminine de l'E-Dub.
Ah, c'est un match de rookie. Ça...
Ah oui.
Rien à faire dans un pay-per-view.
Ah, en pré-show alors, si tu veux.
Voilà.
Bah, disons qu'un Chris Statlander, Britt Baker en pay-per-view, oui, mais un Chris Statlander, Penelope Ford, je suis d'accord avec Ringside, c'est pas l'affiche qui fait rêver en pay-per-view.
Ouais, non, j'ai rien de bien à dire là-dessus. C'est pas bien.
Eh bah, très bien, on passe à la suite où il n'y a pas peut-être grand-chose de trop non plus à dire, parce que c'est un match très court. C'était donc Sean Spears contre Dustin Rhodes. Hein. Sean Spears qui, la semaine dernière, à Dynamite, a fait un petit truc mode journal télé où il disait que c'est un scandale qu'il ne soit pas sur la carte de Blood of Fing et qu'il va s'incruster dans la carte du pay-per-view en défiant Dustin Rhodes s'il n'est pas en train d'avaler des pilules dans un EHPAD suite à sa défaite contre Insarcher. Donc, il arrive tout costard sorti en demandant à Audrey Edwards de ring the bell et de count out Dustin Rhodes, puisque ici, les victoires et défaites comptent. Donc, une victoire par count out ou par forfait reste une victoire jusqu'à ce que ce soit Brandi Rhodes qui débarque, qui captive l'attention bien sûr de Sean Spears, qui demande qu'est-ce qui se passe. Ça laisse l'opportunité à Dustin Rhodes de se glisser derrière Sean Spears et de le tabasser, de lui déchirer et arracher ses vêtements, si bien que Sean Spears finira donc en calbut, finira même quasiment sans calbut, puisqu'à un moment donné, Dustin Rhodes transformera ce match en soirée Club SM, cuir moustache, où donc il baisse le calbut de Sean Spears pour lui mettre la fessée cul nu. Sean Spears qui sera cul nu de nombreuses minutes, jusqu'à ce qu'on remarque que sur l'avant de son boxeur, il avait imprimé un dessin, une photo de la tête de Tully Blanchard, stratégiquement placée sur son zob. Et oui, tout ceci finira rapidement en quand même juste 4 minutes, par la victoire de Dustin Rhodes, donc il nous montre que il n'a pas dit son dernier mot et on va encore compter avec lui pour quelques matchs à venir. Donc voilà, un match aussi très très rapide, mon cher Ringside, du comedy wrestling avec des fessées cul nus, c'est ce impayable. Qu'on aime voir.
Ouais, oui, impayable. Non, c'était un bon moment ça dans le pay-per-view. Sean Spears, il a bien fait de venir à la All Elite Wrestling pour être enfin pris au sérieux.
N'est-ce pas?
Bah oui.
Mais bon, c'était super, on a rigolé, ça se voyait qu'il s'est fait faire le truc. Sean Spears cul nu quand même pendant effectivement de longues minutes, c'était quand même bien marrant. Non, rien à redire, c'était exécuté pile poil. Alors, on voyait que c'était un petit peu répété dans l'arrivée de Dustin Rhodes, peut-être un peu trop, mais flash chipote, hein, je pense, parce que c'était vraiment un bon moment dans le pay-per-view, ça fait marrer.
Et toi, tonton Chris, est-ce que t'as bien rigolé aussi?
Ah, mais moi, pareil. Alors là, moi, j'ai été client. C'était court. Moi, ça m'a fait poiler le coup du boxer avec la tête de Blanchard sur le Zob, comme tu dis. Sean Spears m'a bien fait marrer dans sa promo, tout le passage, voilà, la fessée cul nue, voilà, c'était juste drôle. Voilà, Sean Spears, c'est ce que je disais hors antenne, il a eu plus de promos depuis qu'il est à la All Elite Wrestling que dans l'ensemble de sa carrière à la WWE. Et moi, il m'a donné la sensation de s'éclater pendant ce segment. Il avait un espèce de petit sourire, enfin, on sentait que ça lui faisait plaisir, qu'il kiffait de partager le ring avec Dustin Rhodes. Et voilà, écoute, c'était un segment qui mange pas de pain, comme on dit, et c'était marrant, et voilà, moi ça m'a très bien allé.
Eh ben très bien, ouais, effectivement, c'était fun, vous savez, le mérite d'être court, ça qui est bien, hein. C'est quand on fait des trucs comme ça un peu, qui peuvent être une bonne blague, il faut avoir le bon sens de pas trop la faire durer, et là c'était le cas, 4 minutes, c'était bien dosé. On passe à un autre gros morceau, 17 minutes pour le match pour le titre féminin entre Nyla Rose et Hikaru Shida. Donc gros match, donc no DQ, no count out, tout est permis, très rapidement, on va y avoir du kendo stick évidemment qui est très central dans cette rivalité depuis que Nyla Rose l'a volé avant de fracasser le crâne à Hikaru Shida il y a 2 semaines à Dynamite. Bien sûr, il y a aussi des tables qui seront utilisées. Donc, Hikaru Shida passera à travers 2 tables, il me semble. Voilà, on utilise vraiment tous les abords du ring et avec l'espèce de public aussi pour sortir du ring pour faire des spots. Hein. Moi, c'est un match que j'ai trouvé très dense, très disputé, qui a bien utilisé le côté justement no DQ, c'était vraiment pas gadget hein, sur ce match, c'était vraiment bien stiff par certains moments. Sur le finish, donc ce qui se passe, c'est qu'on a Nyla Rose qui dans le ring fait un gros running power slam avec Hikaru Shida. Shida qui justement va essayer de s'en sortir et arrivera à mettre Nyla Rose un peu en tourniquet dans les cordes pour faire son flying knee. Donc au finish, ce qui se passe, c'est que Shida récupère son kendo stick, mettra un gros coup de kendo stick dans la tête, sur le côté de la tête de Nyla Rose. Le kendo stick d'ailleurs se brisera et sera complètement plié suite à ce coup, donc assez impressionnant. Puis encore une fois, son running knee en plein visage, et on a une nouvelle championne après 12 ou 13 semaines d'avoir squatté le number one rank, la place numéro 1 dans le classement féminin. Hikaru Shida parvient à battre la Native Beast. Tonton Chris, est-ce que là on n'avait pas, tu disais le match Statlander contre Penelope Ford était un des meilleurs matchs que tu avais vu toi, la division féminine de la All Elite. Est-ce que là c'est pas le meilleur match féminin tout simplement qu'on ait vu du côté de la All Elite?
Eh bien voilà, tout simplement, c'était effectivement pour moi le meilleur match féminin qu'on ait jamais vu à la E-Dub depuis le début, quoi. Voilà, c'était bon. Moi, j'aime beaucoup Shida, hein, je te l'avais déjà dit. Voilà, Shida vraiment est une catcheuse que j'aime beaucoup. Nyla Rose est hyper impressionnante et l'Amérindienne, elle est pas là pour la déconne, quoi. Elle est hyper stiff et là, on la sentait hyper vénère parce que je pense que, bon, même si c'est kayfabe, mais elle savait que la Japonaise était très dangereuse. Et voilà, et la Japonaise, elle l'a prouvé, cette dangerosité. Et j'ai trouvé vraiment le match excellent. Shida, elle porte une superplex à Nyla Rose, il faut quand même le faire, parce que Nyla Rose, je ne sais pas combien elle pèse, mais c'est quand même quelque chose. Et après, l'enchaînement avec les running knee, c'est pour gagner la ceinture, là, c'était pas de la déconne, quoi.
Non, c'est clair.
Clairement, les filles, elles n'étaient pas là pour déconner dans ce match. Sans aucun problème, pour moi, c'est le meilleur match féminin qu'on ait vu. Voilà, Shida devient la 3e championne de l'histoire à la E-Dub. Je trouve que c'est amplement mérité pour la japonaise. Je suis ravi pour elle et j'ai trouvé que c'était un très bon match.
Ouais, notamment il y avait ce super avalanche Falconaro porté par Shida, mine de rien, qui était assez exceptionnel.
Ouais, tout ce truc qu'elles ont raconté avec le kendo stick, voilà, dès le début du match et pendant tout le match en fait, ça a duré et j'ai trouvé que ça s'était bien foutu. Non, vraiment, moi, je suis hyper satisfait du match féminin. C'était un truc dont je me plains à la E-Dub depuis le début, la division féminine. Et là, j'espère qu'ils vont rester sur ces bases-là avec les filles.
Et la vraie question qui me brûle les lèvres, c'est ton avis ringside. Est-ce que ça y est, ça suffit à te réconcilier un peu avec le catch féminin de la AEW ou non, c'est pas encore ça.
Mais oui, tout est pardonné.
Ah,
oh, c'est beau, c'est beau.
C'est un très très bon match. Non, et, ben, ah. J'ai pas grand chose à ajouter parce que je suis à peu près du même avis que tonton Chris sur tous les points. Hein. Je suis aussi. Je trouve qu'également Kikaru Shida, elle ressort du lot. C'est celle qui
est
le plus dans le roster depuis le début. Nia Rose, elle est bien dans son personnage de grosse balèze, là, gros monstre imbattable. Le match, il était vraiment très très bon. Et effectivement, ils ont bien utilisé toutes les possibilités du fait que ce soit Fall Count Anywhere et que ce soit sans aucune règle. Donc ça a été violent, c'était dense, comme tu l'as dit. Voilà, je n'ai vraiment pas grand-chose à...
C'était
vraiment impeccable. Hein.
Les snaps souplex de Nyla Rose, c'est quelque chose. Hein. Franchement, les body press, les snaps souplex, elle est vraiment impressionnante. Et tu vois la différence, pour comparer avec des gabarits, la différence d'une Nia Jax ou d'une Awesome Kong, Nyla Rose, elle est rapide, elle est impactante, elle ne botche pas. Et voilà, on sent qu'elle fait mal, quoi. Et c'est pour ça que je donne tout le crédit à Shida d'avoir sorti un aussi bon match face à un tel bulldozer, quoi. Ouais. Donc non, vraiment, vraiment, j'ai que des bonnes choses à dire sur ce match. Mmh.
En plus, je trouve ça très cool qu'ils aient fait gagner Shida. Parce que vraiment, moi, je pensais que c'était Nyla Rose qui allait gagner. Puis je regarde le Dynamite la semaine dernière, et puis je me dis, quand même... Shida, après cette montée en puissance dans le classement de la division féminine, et après avoir dominé pendant tant de semaines le premier spot, hein, je me suis dit, la chose qui lui manque pour en faire vraiment une superstar au sein de la All Elite, c'est la ceinture. Et là, c'était vraiment nickel de la faire gagner ainsi, puisque pareil, vu qu'il y a quand même une utilisation de candlesticks, etc., ça ne va pas être trop dramatique comme perte. Comme défaite pour Nyla Rose. Donc c'est comme ça qu'ils vont construire aussi des stars de grande amplitude, c'est en leur faisant gagner. Et moi, j'ai aucun problème à ce que la ceinture voyage un petit peu, hein, d'une championne à une autre, si c'est pour entériner des catcheuses en disant OK, bah, ils sont du niveau champion. Je trouve ça plutôt cool et j'étais vraiment content de voir qu'ils ont poussé, ils ont joué la carte Shida jusqu'au bout et qu'ils en font la championne cette fois-ci. Ça fait que la division féminine est que d'autant plus renforcé, je trouve, de faire ce changement de ceinture. Donc, vraiment, chapeau, mesdames, c'était vraiment un très, très bon match.
Ouais, beau boulot.
On passe au dernier match traditionnel de ce pay-per-view, le premier main event, on va dire, puisque c'est le champion John Moxley contre Monsieur Brody Lee, qui arrivera du coup avec, bien sûr, sa garde rapprochée, mais qui sera seul de tout le long du match. Hein, pas de vague de creepers et Dark Order viendront perturber le match. John Moxley qui débarque avec le blouson en cuir le plus moche qui m'était donné de voir l'année.
Quelle horreur ce truc.
Vraiment non, faites pas
mais,
ça.
Non mais en plus il avait une taille au-dessus, il lui allait même pas le truc quoi.
Mais il avait essayé avec une chemise ou un gros pull. Là,
il avait une polaire dessous.
Pas, voilà.
Ouais. Ça ne l'avait pas, mais c'est pas grave, il n'a pas gardé bien longtemps, fort heureusement. Donc, effectivement, un match de 15 minutes 34 pour le titre suprême, avec un rythme assez lent pour une bonne partie du match, hein, puisque, effectivement, le catch de Brody Lee, ni même celui de John Moxley, ce n'est pas dans la rapidité que ça se passe. Ça va tout de même assez vite dans les gros power moves, hein, et donc. Au finish, là aussi, hein, je vous laisserai revenir sur les spots ou les trucs qui vous ont marqué, que vous avez aimé dans le ring. Mais tout va s'enclencher au niveau de la fin lorsque John Moxley placera un paradigm shift à l'extérieur, un peu sur la rampe en escalier qui est au même niveau que le ring, hein, la rampe par laquelle les catcheurs arrivent. Eh bien, John Moxley fait un paradigm shift à Brody Lee et les deux passent au travers tout simplement la structure. Donc disparaissent de notre champ de vision, Donc, bien sûr, tous les docteurs autour du ring se précipitent, et les arbitres aussi, pour voir si les deux sont encore en vie. On vous rassure, ils sont bien en vie, mais Brody Lee ressort la tête ensanglantée, donc une blessure. Il essaiera de reprendre l'ascendant sur le match avec sa discus lariat, mais Moxie refait un paradigm shift et placera Brody Lee dans une prise de soumission pour l'étrangler, une sorte de headlock modifié. Et c'est l'arbitre qui arrêtera le match, puisque Brody Lee semble perdre connaissance. Donc Brody n'est pas soumis, Brody n'a pas eu le tombé sur lui, mais c'est l'arbitre qui décide de donner la victoire et de faire garder la ceinture à John Moxley. Donc là aussi, ben, mon cher Ringside, que penses-tu de ce match? Est-ce que Dean Ambrose versus Luke Harper du côté de la All Elite, est-ce que c'est mieux que du côté de la WWE ou ben non?
C'était pas mal du côté de la WWE.
Oui.
Mais non, là, c'est un très très bon match. Hein. J'ai bien aimé. Hein. Très bon match de championnat. C'était bien violent aussi. Bien, effectivement, des enchaînements de gros power moves comme ça. Brody Lee qui était bien costaud, bien en forme. Moxley qui s'est sorti un petit peu les doigts du cul. J'adorais le spot de fin là, quand ils sont écrasés à travers la rampe d'accès là. Ouais. Et puis ce qui a suivi l'enchaînement, les coups de coude de Moxley dans la gueule de Brody qui se relève à 1, hein, je crois, du tombé sur le premier.
Tout à fait, ouais.
Sur son premier Paradise Shift, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, j'aime beaucoup ce finish où il s'acharne sur lui comme un gros psychopathe et puis après il l'étrangle.
Pareil.
Pour le faire pass out, comme on dit, hein, le faire s'évanouir. Non, c'était de bout en bout, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien exécuté. Là, on a deux mecs, on voit qu'ils ont le calibre de main eventer, on le savait, hein, pour John Moxley, depuis un bon moment, puisqu'il a quand même été champion à la WWE, etc. etc. Alors, il n'a pas toujours été booké de la meilleure des façons, apparemment, à un moment donné, ils sont perdus avec lui, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient en tête, mais... Là, on voit qu'effectivement, il n'avait pas volé sa ceinture de champion à la WWE, ni ici à la All Elite Wrestling. C'est vraiment un mec qui a le potentiel d'être un vrai main eventer. Et on voit que Brody Lee, c'est pas loin d'être le cas aussi, hein, même si ce n'est pas carrément certifié ce soir.
Bah, très bien, c'était bien saucé. Et toi, Chris, est-ce que tu es aussi enthousiaste que Ringside, comme tu dis?
Complètement, quoi. J'ai kiffé ce match, quoi. Voilà, quoi. J'ai trouvé que la fin était très bien. J'ai trouvé que c'était bien joué ce fait de voilà, Brody il prend pas de tombée, il est en sang, il se fait marave par le Moxley pour terminer dans une soumission et pour s'évanouir, on va dire. Et moi j'ai trouvé ça très bien, tout un tas de spots énormes, quoi. Voilà, j'ai retrouvé mon bon Luke des familles de la Wyatt Family là, quand il tente des Dragon Suplex, quand il met ses discus clothesline, quand il met son running drop kick là, qui est hyper impressionnant, je trouve. Moi, j'ai kiffé du début à la fin. Hein. J'aimais et Brody, il a même réussi à mettre un peu le doute, hein, parce qu'il y a eu un moment où je me suis demandé s'il allait pas, réussir à remporter le truc quand il a, en particulier quand il a placé sa Liger Bomb là. Et mais finalement, bah Moxley avec son move là, où enfin il lance le jeton là, le gros jeton dans la gueule de Brody. Et vraiment, non, mais moi j'ai été dans le match tout le temps. Et voilà, il y a aucun moment je les ai trouvés en deçà ou en manque de rythme ou quoi que ce soit. Non, ils étaient au taquet tout le temps, quoi. 15 minutes de super catch avec une fin qui m'allait tout à fait. Non, vraiment, j'ai encore un match sur lequel je n'ai que des bonnes choses à dire.
All right.
Oh là, ouais, ça vous a pas créé un grand enthousiasme. C'est parce qu'on a perdu l'amiral. Ah bah voilà, bref, on perd l'amiral, c'est voilà.
Chute à l'arrière.
Mais non, vraiment, c'était vraiment du lourd. Hein. C'était du très très lourd. Hein. Je me rappelle. J'ai essayé de me rappeler un peu dans les fights entre la Wyatt Family et le Shield. Si j'avais vu un truc de ce niveau-là entre Harper et Ambrose, et franchement, je ne me rappelle pas d'avoir vu un truc aussi balèze entre eux.
Non, là,
encore une fois, voilà, ils ont délivré la marchandise, ils ont sorti le grand jeu, et vraiment, voilà un beau match pour un titre mondial. Quoi.
Ouais, non, c'est clair. Si on fait le parallèle hein, sur leur match précédent du côté de la WWE ou du ou maintenant du côté Elite, il y a pas vraiment de comparaison. Je pense que c'est aussi placement dans la carte là. Du Carter, maintenant Brody Lee est clairement présenté comme un main eventer, donc du coup il y a ça qui joue aussi, je pense, sur ce qu'il donne dans le ring et ce qu'on lui permet de faire et le champ qui lui est laissé. Et là, ouais, ça faisait un gros choc de titan, de gros main eventer, hein, alors que c'était pas le cas du côté de la WWE. Donc non, c'était plutôt cool, même si le rythme encore une fois était un peu lent. Hein, c'est un catch particulier qui plaît ou qui ne plaît pas aux gens, mais en tout cas.
Ouais, c'est normal. Pareil. C'est quand même deux gabarits assez impressionnants, et en particulier Brody Lee. Voilà, Brody Lee, c'est normal qu'il ait cette manie, on va dire, un peu de vouloir justement ralentir le rythme face à un excité notoire comme Jon Moxley. Donc c'était. Tactiquement, moi je trouve que c'était plutôt bien joué de la part de Brody Lee. Il n'aurait pas pu tenir la route en se lançant dans un match complètement dingo en allant à 10 000 à l'heure. Donc finalement, tout ça c'était assez logique, quoi.
En parlant de match dingo, justement, sur l'occasion de la transition. Puisque donc nous reste le dernier main event, c'est ce fameux Stadium Stampede match, le premier de l'histoire où on a donc The Elite, The Broken Elite, même on pourrait dire, parce que c'est Kenny Omega, Hangman Page, les Young Bucks et Matt Hardy contre l'Inner Circle au complet. Le match, comme c'est annoncé, ne se passe pas dans le Daily's Place, mais se passe bel et bien dans le stade de football des Jaguars qui est à côté, et donc on a un stade de football entier avec donc un gros logo Inner Circle d'un côté, un gros logo The Elite de l'autre côté, AEW en gros au milieu, avec un ring qui a l'air tout petit minuscule au milieu de ce stade gigantesque. On a des pop-up girls des Jaguars qui sont là, masqués parce que Covid mania évidemment, et arrive The Inner Circle sur la musique donc de Chris Jericho, le champion. Et on voit qu'ils sont tous habillés avec du gear de football américain aux couleurs d'Inner Circle, avec chacun leur nom floqué dans le dos, avec un numéro, avec donc des fumigènes, des pyros. Donc voilà, ils sont tous à l'unisson, hein, l'Inner Circle ce soir, hein, comme ils l'ont dit depuis plusieurs semaines. Eux, contrairement à The Elite, c'est un groupe soudé qui ne fait pas de coups dans le dos. The Elite débarque sur leur musique The Elite. Mais tous habillés différemment, et surtout ben pas d'Eggman Page, hein. Le match commence, c'est un 5 contre 4 qu'on voit se dérouler devant nos yeux, donc ça commence forcément, c'est un gros brawl. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'ils peuvent se battre n'importe où dans le stade, même dans les couloirs, même dans les vestiaires, et que le tombé peut se passer n'importe où également. C'est limite à se demander pourquoi ils ont foutu un ring, hein. Quoi qu'il en soit, ça part de suite forcément au pugilat avec plein de bastons de droite et de gauche, jusqu'à ce que arrive Hangman Page, mais il arrive à cheval. Il arrive sur son cheval et il finit par poursuivre Sammy Guevara, qui après avoir été poursuivi avec une voiture de golf et être renversé par une voiture de golf il y a deux semaines à Dynamite, et bien là il se fait poursuivre par Page. Ils iront même jusque dans les couloirs du stade. Donc Hangman Page errera longtemps dans les couloirs du stade à la recherche de Guevara, qui finalement aura trouvé un moyen de revenir retrouver ses potes du Inner Circle. L'Inner Circle qui auront une bonne phase de domination, hein, quand même à ce moment-là, puisqu'ils sont toujours à 5 contre 4. Hangman Page, lui, n'arrive toujours pas à trouver Sammy Guevara et finira par voir un signe qui lui indique le bar. Il ira au bar, du coup. Le retrouvera là-bas plus tard Jake Hager, dans un petit segment que j'ai bien aimé, où il y a donc Hangman Page assis au bar qui sert des verres de whisky, Jake Hager qui s'assoit au bar. Eggman qui lui sert un verre en lui disant « T'es venu te battre ou t'es venu boire un coup ?» Et puis forcément, ils y vont à se bastonner dans le bar. Jake Hager qui, à la fin, mettra Hangman Page face contre, allongé contre le bar. Et à la manière des vieux westerns spaghetti, le traînera sous toute la longueur du bar pour nettoyer tous les verres et les assiettes qui traînaient juste par là. C'est vraiment le segment, la baston de bar entre Hager et Hangman, pour moi, reste un des points forts.
Le fight de Saloon.
Ah ouais, ça se bastonne sur la table de billard. D'ailleurs, Hangman éclate une queue de billard sur le dos de Jake Hager qui nocelle le truc, mais j'en ai rien à branler, jusqu'à ce que ben, le partenaire de Page, hein, Omega, débarque à prêter main forte à son coéquipier champion tag team, et finalement Omega fera même le trampoline pour que Page puisse mettre une buckshot lariat par-dessus le bar à Jake Hager. Donc voilà, il y a tellement de trucs dans le match qui sont fun et mémorables. Voilà, à un moment donné, il y a Matt Hardy qui aura maille à partir avec Santana et Ortiz dans la piscine, puisqu'il y a une piscine, hein, on est pas loin dans le stade. Matt Hardy qui se fera noyer par les deux, mais quand il est noyé, il revient avec une autre identité. Il était en Damascus, il revient en Matt Hardy Team Extreme. Il se refait noyer, il revient en Broken Matt première version. Bref, ça n'arrête pas. On a un autre drone qui débarquera. Ce n'est plus Vanguard One qui s'est fait démembrer par l'Inner Circle la semaine dernière. C'est Neo One, donc Vanguard One, nouvelle génération. Que de clin d'œil. C'est vraiment n'importe quoi. Jericho qui, à un moment donné, fera un tombé sur quelqu'un. Aubrey Edwards comptera seulement deux. Jericho qui conteste. Et donc, les deux vont dans la tente de l'arbitre pour vérifier. Parce qu'il veut un replay, donc là, il y a plein de références au football américain. Je ne pense pas les avoir toutes eues durant le match, mais c'est plein de micro-références.
Ça n'arrête pas.
Ah ouais, c'était vraiment bien, bien foutu. Sur la fin, les membres de The Edit dans la storyline vont un à un disposer des membres du Near Circle. Donc il y a Ortiz qui va finir enfermé dans le bac à glaçons par Matt Hardy, Santana qui finira scotché à un fauteuil roulant par Matt Hardy.
C'est le contraire, c'est Santana qui finit dans le bac à glace et c'est Ortiz qui finit attaché dans la chaise roulante.
Ah bah voilà, il y a tellement partout que je confonds les gens, vous voyez, j'en perds mes noms de catcheurs. Donc ouais, qui finit après avoir pris un gros coup de cloche qui le sonne un peu à la cartoon, hein, où il tremblera de manière complètement grotesque. Matt Hardy donc va scotcher un siège. Donc Jake Hager qui sera fait donc péter la gueule par Hangman et par Omega. Jericho qui sera pris effectivement un gros spot et c'est Hangman qui débarquera avec le petit chariot avec la bombe de peinture blanche qui sert à délimiter les zones sur les stades, à faire les lignes de touche, etc. Eh bien, Hangman Page, un peu sous, arrivera et dessinera une ligne de peinture de long en large sur la gueule de Jericho qui sera par terre. Donc, signe qu'il est éliminé. Sammy Guevara aura son cauchemar à nouveau, hein, qui sera là, puisque Matt Hardy et Kenny Omega débarqueront au volant de la petite voiture de golf. Sammy Guevara réussit à s'échapper, mais tout ça pour finir dans un One Wing Angel qui est donné par Kenny Omega depuis le haut d'un des étages, des gradins. Je ne sais pas combien de mètres de chute les deux se prennent, mais je pense bien 6 ou 7, comme ça, à vue d'œil. Bien sûr, évidemment, la plateforme sur laquelle il se crache a été prévue pour, et c'est le dernier gros spot qui marque la fin du match. Et victoire des élites face à Winner Circle. Tellement de trucs dans ce match, tellement de trucs. Je crois que Chris, toi, tu as juste adoré ce moment.
Ouais. Ah ouais, non, mais moi j'ai adoré ce match, quoi. Alors, tu te rappelles la dernière baston du mercredi qu'on avait fait ensemble, il y avait déjà eu un teasing un peu dans un main event de Dynamite où c'était déjà parti complètement en cahuète dans le stade des Jaguars de Jacksonville. Et ouais, là, moi, j'ai adoré de bout en bout. J'ai trouvé tout extraordinaire, quoi. Le décorum, les cheerleaders, les références NFL, les spots de dingue, le 100 yards touchdown suplex de Jackson sur Sammy Guevara, les arbitres que j'ai trouvé géniaux tout au long du match, avec notamment Knox qui se prend un super kick à la fin justement du 100 yards touchdown suplex là. Les tenues des articles, le délire total dans la piscine. Avec la petite incrustation comme quoi Matt Hardy est capable de rester 346 secondes en apnée. Le coup de la cloche, c'était énorme. Le coup du bac à glace, le cheval aussi, j'ai trouvé ça. La bagarre de saloon, comme tu l'as signalé. Bref, non, je t'ai plus, quoi. J'ai kiffé de A à Z, quoi. 5 stars, c'était le what the fuck match of the decade. Et period.
All right, ringside. Quel est ton avis sur ce match? T'as adoré aussi?
Ouais, clairement, j'ai retrouvé l'esprit qu'on avait dans Being the Elite. Ils ont vraiment exploité le décor, c'était filmé d'une belle manière. Il n'y a pas eu de montage pourri comme on a pu voir à la WWE dans les différents matchs qu'on a eu du même genre, par exemple le Money in the Bank. C'était vraiment, vraiment la classe au-dessus. Tout était bien goupillé, les trucs étaient drôles. Le spot final, il est impressionnant. Comme tu l'as dit, Tonton, toutes les références à NFL aussi, ça visait juste. On s'est pas ennuyé une minute sur les... Ça a quand même duré plus d'une demi-heure. Hein, le...
Ah ouais, 34 minutes.
Ouais, non, c'était de bout en bout, c'était bien fait. Il n'y a rien qui a dépassé. C'est ce qu'on avait envie de voir pendant ce confinement sur les main events qui ont pu être faits en cinématique. C'était à la fois innovant, c'était à la fois réussi. Et ils ont montré en même temps qu'ils sont c'est tous d'excellents catcheurs qui savent faire des gros spots, même à l'extérieur du ring, même dans des moments compliqués comme ça. Et qu'ils étaient soucieux d'avoir une réalisation qui est propre et pas un truc fait à la va-vite en jouant la carte de la zédrie en disant c'est pas grave, hein, de toute façon c'est là pour la déconne. Là, c'était vraiment très très bien filmé, très très bien monté. Non, franchement, une réussite. Là-dessus, ils ont vraiment enterré la WWE. C'est un gros coup là.
C'était énorme. En plus, les mecs étaient drôles. Je veux dire, il y avait le coup de la ligne, tu l'as dit, Amiral, le coup de la ligne blanche avec le Adam Page complètement, qui est un alcoolique notoire. Et qui donc, finalement, ça colle tout à fait bien avec son personnage un peu bourré qui débarque et qui s'est dit tiens, oh bah tiens, je vais prendre le truc pour faire les lignes et puis je vais me farcir le Jericho avec ça. Sammy Guevara m'a fait rire pendant le match, il m'a fait rire quand Omega et Hardy redébarquent avec la voiture de golf ou de je sais pas quoi là, et qu'il est totalement, alors qu'il est là, il est en train de célébrer et tout, et qu'il se rend compte que les deux autres qu'ils arrivent, qu'ils allument les phares et tout, mais j'ai trouvé ça mais génial quoi, mais c'était qu'est-ce que ça m'a fait poiler quoi, mais là...
Ouais, juste avant il se réveille, il se prend l'arrosage automatique dans la gueule.
Oui. Ouais.
ce match est plein de petits moments très très fun. Effectivement, comme l'a dit Ringside, on retrouve l'esprit de Bing Zelit, l'esprit un peu goguenard. L'Inner Circle n'est pas dénué de ça, loin de ça, puisque Jericho est un gros déconneur et effectivement il embarque un peu tout le monde avec lui dans son groupe là-dessus. Alors c'est sûr que par rapport au Blood and Guts, hein, le War Games qu'aurait dû être fait entre les deux pour résoudre la rivalité, c'est pas du tout le même placement, le même positionnement, et peut-être que le Blood and Guts on l'aura si à un moment donné ils pourront refaire des shows avec public dans pas trop longtemps, mais dans tous les cas, effectivement, vu le contexte actuel, ce match-là était vraiment, vraiment, vraiment cool, vraiment fun. C'était chouette, quoi. Très, très bon moment.
On n'a pas parlé du Judas Effect sur la mascotte.
Oui, bah ouais, il y a trop de trucs dans ce match. Voilà, à un moment donné, effectivement, il y a la mascotte des Jaguars qui vient aider je ne sais plus qui, puisqu'il y a Nick Jackson, puisque Nick Jackson et Chris Jericho se battent près d'une tête de Jaguar, hein, etc. Jericho a l'ascendant et c'est la mascotte qui vient chercher des noises au champion, à El Champion. Du coup, le champion, lui, il lui fait un gros Judas Effect. C'était trop bien.
Sans pitié.
C'était trop bien, quoi. C'est ça. Et voilà, donc du coup, la fin de ce pay-per-view, la fin de la rivalité entre The Elite et le Inner Circle, on verra ça au prochain numéro, en tout cas fin du pay-per-view. Le moment du mot de la fin, un top, un flop et une note. Bah écoute, Ringside, je te propose de commencer.
Le flop, je vais le mettre au MJF Jungle Boy.
Ouais.
Pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Je trouve que ça va à côté et puis ça a failli me sortir du pay-per-view. Même si bon, le plus mauvais match de la soirée, ça doit être celui de Statlander et Penelope Ford, mais on va pas tirer sur l'ambulance. J'ai envie de le mettre au main event et puis à Sammy Guevara, que j'ai trouvé quand même très très impressionnant ce soir dans le côté showman, performance, humour. Et voilà, tout doucement, il va s'imposer comme une des stars de la All Elite. Hein. Je pense que c'est inéluctable maintenant. Et j'aurais pas pensé que c'est ce mec-là qui s'en sortirait le mieux, même s'il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir en lui. Il s'en sortirait aussi bien en second degré, en choses comme ça, à s'intégrer aussi bien avec la bande de l'élite et de l'Inner Circle. Et je trouve que ce soir, il a vraiment assuré au niveau du Stadium Stampin' Match. Il était vraiment drôle. est impressionnant dans certains de ses trucs. Et il se prend un sacré bum quand même aux mains de Kenny Omega. Oui. À la fin du truc, ça restera dans l'histoire, je pense, ce gros bump-là. Mmh. Et la note... j'ai pas envie de mettre une trop grosse note parce que les shows en huis clos pas se permettent de leur mettre une grosse note. Ça ne devrait pas avoir lieu. Mais bon, je vais quand même mettre combien je peux mettre à tout ça ? Je vais mettre un bon 3,5. Et puis, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à acheter dans ce pay-per-view, honnêtement. Les matchs de championnat étaient réussis. On a bien rigolé avec Dusty Rhodes et le Persian Spears. Et puis le final, là, les 34 minutes, c'était vraiment un très, très bon moment. Très, très cool. Jamais malaisant. Moi, j'ai bien rigolé. J'ai passé un bon moment. Donc voilà, chapeau là, à l'élite. 3,5 parce qu'on est en période de crise. Hein, ça aurait pu valoir plus quand même.
Bah, très bien. Chris, quel est ton verdict ?
Alors, moi, j'étais censé faire un no-show sur cette review à la base. Et donc, du coup, j'avais mis une première note dans l'avis sur le Discord. Mais mm-hmm. Je pense que je vais changer les choses. Alors, mon flop. Moi, mon flop, je le donne à Jim Ross. Voilà, quoi. Bah, parce que je le supporte plus. Quoi. Il ne raconte que des conneries. Il parle comme s'il avait du yaourt dans la bouche. Il se trompe sur les noms, il se trompe sur les prises, il se trompe sur les annonces. Il est complètement largué. Bref, Jim Ross, rejoins-moi à l'EHPAD. Il est temps. Parce que vraiment, moi, je ne peux plus, je ne le supporte plus. Quoi. J'ai un respect immense pour toute sa carrière. Mais là, vraiment, pour moi, il est totalement largué, le papy. Quoi. Donc vraiment, il me fait saigner les oreilles dans un pay-per-view qui m'a autant plu là. Il m'a fait saigner les oreilles pendant 3 heures. Quoi. Donc ça, vraiment, Jim Ross, moi, j'en ai trop marre. Quoi. Voilà. Bon, mon top, hein, sans surprise, hein, le main event. Hein, voilà, quoi. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Quoi. Voilà, de toute façon, j'ai aimé le pay-per-view dans son intégralité, mais vraiment, le main event, c'était pour moi... Alors là, pour moi qui suis un suiveur de catch depuis quasiment 4 décennies, là, franchement, j'ai assisté à un truc. Pour moi, c'est historique. Quoi. C'est, voilà, quoi. Je n'avais jamais assisté à un truc pareil. J'ai trouvé ça génialissime de bout en bout. Vraiment, j'en aurais pris même 10 minutes de plus s'il avait fallu. Il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, j'ai même eu un petit doute hein, sur le spot de Omega. Je me suis dit, putain, est-ce que ça se trouve, il va se relever, quoi. ça se trouve, ils nous ont prévu encore un truc là-dessus parce que je m'attendais à ce que, après ce spot, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un espèce de doute qu'ils allaient revenir sur le ring au milieu du terrain. Mais non, finalement, ça s'arrête là-dessus, mais c'était fantastique, quoi. C'était vraiment, comment j'ai kiffé, mais comment je me suis éclaté. Écoutez, pour vous tout vous dire, je cuisinais en même temps, et en fait, j'ai arrêté tout, et j'ai dit, oh non, mais c'est pas possible, c'est trop génial, ce truc, quoi. Et finalement, je suis retourné à ma cuisine, et je me suis remis le dernier quart d'heure pour le plaisir, quoi. Parce que vraiment, et d'ailleurs, je pense que peut-être ce soir, je vais peut-être me le refaire. j'ai adoré, quoi. Et j'étais parti sur une base de 3,5, mais comme d'habitude à la IDub, et ben c'est super l'ambiance avec les catcheurs autour, ça gueule, ça se prend la tête, ça se chacaille, ça se chamaille, ça met de l'ambiance, ça met de la vie dans ce pay-per-view. J'ai trouvé les matchs quasiment tous pas mal, bon, très bon, voire excellent. Je suis très content pour la division féminine qu'enfin on ait eu 2 matchs de grande qualité. Et donc, je vais mettre un 4 à ce pay-per-view de Double or Nothing. Qui tout double, et ben ça sera 4.
4 points pour Double or Nothing. Je reprends les rênes de l'émission. C'était quelque chose de qui méritait hein, quand même des points. Comme je dis, moi, je ne vais pas mettre de trop grosses notes sur un show.
Je sais que c'est...
Qu'est-ce qu'on va faire après quand on va,
Oui,
quand
je sais bien, ouais.
Sûrement mieux. Mais bon, oui, là, avec les catcheurs qu'il y avait autour, on avait une ambiance qui était quand même quasiment égale à ce qu'on retrouve à Impact ou à certains shows de la Ring of Honor quand ils n'ont pas beaucoup de monde. Donc, c'était, du coup, ça passait crème. Hein, bien mieux que, que ce qu'on a pu voir depuis le début de cette période de crise.
Moi, c'est tout simplement le meilleur show de catch que j'ai vu depuis le début du Corona Mania, quoi. Pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas eu un seul épisode de Raw, SmackDown ou de pay-per-view de la WWE qui, pour moi, a été au niveau de ce que nous a proposé la All Elite Wrestling ce week-end.
Franchement, et c'est vraiment pas pour taper sur la WWE, quoi, parce que j'en suis un fan de la WWE.
Il faut être objectif quand même.
En toute objectivité, pour moi, c'est vraiment le meilleur show de catch qu'on a vu depuis ce fameux Corona Mania.
Mmh. Après, ouais. Donc, c'est normal aussi parce que ils ont eu plus de temps pour le préparer que la WWE, ouais, qui en a sorti 3, quoi, des pay-per-view sur la même période, quoi.
Donc voilà, donc pour moi, c'est un 4.
Très bien. Bah écoutez, moi en termes de flop, c'est une petite anecdote, mais moi ça m'a bien fait chier à plusieurs moments. C'était Big Swole qui était dans les catcheurs autour, donc pour faire un peu le public. Et donc du coup, il est dans son personnage qui va forcément trash-talker les heels, et j'ai aucun problème avec ça. Elle fait ça avec Kip Sabian, pas de souci. Elle fait ça avec Sean Spears ou même MJF, j'ai pas de problème. Mais quand elle se la raconte et se la ramène face à Lance Archer ou Brody Lee, qui sont censés être super inquiétants et terribles, bah ça me saoule en fait, c'est pas sa place, c'est pas son rôle, et ça décrédibilise ses Monster Hill, et elle avait un job ce soir, Big Swole, et elle a foiré, donc merci la prochaine fois d'arrêter ça, de te la fermer, quand t'as les plus gros dangers de la fédération qui sont à 10 cm de toi, t'évites de faire croire que tu vas jumper la barrière pour aller leur en coller une, ça marche pas quoi. Voilà, c'est un détail, mais ça m'a saoulé plusieurs fois durant le show. Mon top, je vais le mettre au smile, en fait. Ce pay-per-view m'a mis du smile, parce qu'il y a plein de bons moments, plein de feel-good moments, comme on dit dans ce pay-per-view. L'arrivée de Brian Cage, la victoire de Cody, et le fait qu'il gagne le TNT Championship, la victoire de Dustin Rhodes sur Sean Spears, Hikaru Shida qui conquiert Nyla Rose, John Moxie qui retain, The Edit qui gagne à la fin de ce match. Et je trouve qu'il y a vraiment une espèce de... J'ai l'impression qu'ils ont voulu mettre un sourire sur le visage des fans et que les gens go home happy, comme on dit, et en cette période un peu triste et moribonde, je trouve ça bien qu'ils aient fait majoritairement gagner les face, parce que là, il n'y a que MJF qui en heel a gagné de toute la carte du pay-per-view. Et je pense que c'est une volonté de faire un truc un peu solaire, un peu positif. Et moi, j'ai bien kiffé ça. Et note globale, je vais être comme Chris, je vais lâcher 4. Alors, en période normale, hors Corona Mania, peut-être que j'aurais mis moins. Mais là, vu le contexte, le résultat qu'ils ont fait est vraiment, vraiment nickel. Comme Chris, je pense que c'est le meilleur show qu'on ait vu, même s'ils ont eu plus de temps que la WWE, ça reste quand même un show dans le contexte actuel qui est vraiment sympa et agréable et qui fait du bien à voir, surtout qui fait rire, et ça c'est cool. Donc voilà, ce Double or Nothing 2020 cru Corona Mania est terminé. On avait plein de choses à dire. Encore une fois, si vous n'avez pas regardé le Stampede Match, allez le voir, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Nous, la suite, c'est quoi? C'est tout le reste, la VVE, Raw, SmackDown, NXT et All Elite Wrestling pour la baston du mercredi. On a un takeover qui sera début juin, le prochain pay-per-view WWE qui sera dans pas si longtemps que ça non plus. Donc, pour savoir quand est-ce qu'on en parle, quand est-ce qu'on fait nos reviews et qu'on vous livre nos préférences, eh bien, pour ça, le mieux, c'est de s'abonner sur YouTube. Tu regardes la vidéo sur YouTube, tu fais un petit clic, un like, et tu t'abonnes avec la cloche pour recevoir les notifications. Ou sinon, sur le monde du podcast audio, on est présent partout, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Ocha, j'en passe, et des meilleurs. Rejoignez-nous sur Discord. On a un Discord avec tout plein de fans de cash qui parlent de l'ignoble sport, comme dirait tonton Chris. D'ailleurs, tonton Chris, merci de nous avoir rejoints à l'improviste pour faire cette triple frite bien agréable pour parler de Double or Nothing.
Avec plaisir, mes amis.
Ringside, toujours un plaisir de chroniquer. Content de voir que tu avais apprécié ce pay-per-view. C'est toujours bien de t'entendre enthousiaste de ce que tu regardes.
Mais c'est toujours un plaisir. Moi, je suis content d'avoir été charmé par ce fabuleux pay-per-view de la All Elite Wrestling. Voilà. Je change d'avis comme de chemise. Moi, ça me pose pas de problème.
Il turn comme le Big Show, voilà.
Voilà.
C'est son gimmick, on le sait. C'est un peu le Big Show de catch-up. Elle va très bien. Mais en tout cas, on espère que vous avez autant apprécié ce pay-per-view que nous. Si vous l'avez regardé, sinon, allez voir les petits morceaux dont on vous a parlé. Ça vaut vraiment le coup. Et d'ici la prochaine fois, on vous souhaite un fin de week-end plein de catch. Salut, merci.
Ciao, bye bye.
Salut, Amiral. Salut, ignoble ringside. Salut, ignoble peuple de catcheurs.
j'adore les reviews en trios. J'ai l'impression d'être de retour au Mexique.
Allez, bah.
See. Si.